Zanzibar à Limoilou. De Bamako à Lévis. De Ushuaïa à Québec. De Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre, avec Simon Parent.
C'est sans zoom.
Nations, du parc de la Vérendrye et de Ferry Creek en Colombie-Britannique. Vous écoutez À nous la Terre.
Tandis que les catastrophes écologiques s'intensifient chaque année, le monde de l'économie semble déterminé à poursuivre le ravage des écosystèmes au nom du développement et du sacro-saint progrès. Malgré la multiplication des feux de forêt, des inondations, des canicules, des extinctions d'espèces vivantes et des revendications exprimées par les premiers peuples pour la protection des terres ancestrales, on poursuit l'abattage des milieux forestiers, l'exploitation des sols, l'extraction des énergies fossiles et la reproduction des équipements industriels permettant toute forme de destruction. L'État, les entreprises privées, les institutions publiques et les groupes subventionnés apparaissent tous comme des organes d'une industrie mortifère. Tous travaillent à l'encontre des conditions d'existence du vivant. On fait rouler une économie de la mort qui s'oppose à la vie. Dans ce contexte, on observe de plus en plus de communautés qui décident de déserter ce monde du tout à l'économie. Un peu partout, des mouvements de résistance s'organisent librement pour protéger les communautés du vivant. Qu'il s'agisse des Premières Nations mobilisées depuis des siècles contre les invasions impériales, des communautés organisées contre les saccages industriels, des groupes désirant une écologie basée sur le respect du non-humain et des jeunes voyant l'impasse dans lequel nous conduit le monde de l'économie, tous partagent des sensibilités similaires. Protéger la vie face à l'économie de la mort. Bloquer les saccages industriels. Habiter des territoires. Et expérimenter, à travers ces luttes, une existence communautaire capable de prendre soin du vivant. Les élections d'hier, avec le plus haut taux d'abstention de l'histoire de la Confédération, montrent à quel point ce pays est en mal de légitimité. De Wet'suwet'en Strong à la découverte d'une quantité inimaginable d'ossements d'enfants sur les sites des anciens pensionnats, tout tend à montrer à quel point le Canada est fondé sur la dépossession et le génocide. Au-delà des couleurs de la carte électorale, c'est depuis un dehors incommensurable que le Canada est fragmenté. Aujourd'hui, nous parlons de ces mouvements de résistance avec des membres de Land Back Lane à Six Nations, de la communauté Anishinaabe près du parc de la Vérendrye et de la lutte qui a lieu à Ferry Creek, près de l'île de Vancouver. Pour commencer, nous sommes avec Max de Land Back Lane à Six Nations. Bonjour Max.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Oui, ça fait plaisir. Je voulais juste souligner que moi, je suis une alliée qui a été plusieurs fois dans la dernière année à Land Back, mais je ne fais pas partie de la communauté Haudenosaunee là-bas. Juste pour préciser.
Parfait. Donc, tu as expérimenté la lutte, mais sans nécessairement être effectivement issu de la communauté.
Exactement. Moi, j'habite à Montréal.
C'est bon. Donc, tu vas prêter main forte à la lutte.
Exact, exact. C'est à ce titre-là que je viens vous en parler aujourd'hui.
Génial. Mais merci beaucoup d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Donc, depuis le 19 juillet 2020, un développement résidentiel est contesté par la communauté de Six Nations of the Grand River, une communauté autochtone de la Confédération Haudenosaunee, aussi appelée Confédération Iroquoise, située près de Hamilton, dans la région étendue de Toronto. Au début de juillet 2021, près d'un an après le début de l'occupation, il a été rendu public que le projet serait annulé à cause de son impopularité dans la communauté et de la persistance des opposants. Donc, merci d'avoir accepté de venir nous expliquer un peu qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là. Je ne sais pas si tu pourrais peut-être juste commencer par expliquer l'origine, qui est assez profonde quand même, du conflit qui a lieu à Land Back Lane, à Six Nations.
Oui, ben dans le fond, c'est ça, comme tu l'as dit. En juillet de l'année dernière, les gens de la communauté ont décidé d'aller ériger un campement sur le site du développement immobilier qui est fait par Foxgate Development. C'est sur une terre qui est située entre la ville de Caledonia et la réserve de Six Nations. Donc, une terre qui se trouve dans le comté de Haldimand. Puis donc, il y a la réserve de Six Nations, mais il y a le comté de Haldimand qui est un territoire qui s'étend là, tout le long de la rivière Grand. Donc, il est dans le sud-ouest de l'Ontario, au sud-ouest de Toronto. Puis qui s'étend donc de la source de la rivière Grand jusqu'au lac Érié. Puis tout ce territoire-là, en fait, qui est le territoire qui avait été offert à la communauté des Haudenosaunee en 1764 par la couronne britannique, en fait, avec le décret de Haldimand, en reconnaissance de l'alliance des Haudenosaunee avec la couronne pendant la Révolution américaine. Donc, cette terre-là leur avait été offerte à cause de cette alliance, puis parce qu'ils avaient perdu les territoires au sud de la frontière suite à la guerre. Puis, en fait, aujourd'hui, le long de ce trajet-là, on retrouve des villes assez importantes comme Kitchener-Waterloo. C'est un peu une banlieue de la ville de Toronto, en fait. Une grande densité de population tout le long de ce trajet-là. Il y a beaucoup de projets industriels. Puis, en fait, c'est ça, c'est le territoire des gens de Six Nations. Puis, en fait, comme on peut l'imaginer, depuis 1764 jusqu'à aujourd'hui, bien que ça a été le territoire de cette nation-là, de la Confédération Haudenosaunee, il y a eu toutes sortes de problèmes, en fait, avec le gouvernement canadien, avec le gouvernement provincial de l'Ontario, avec les colons, comme les individus, qui se sont lentement, mais sûrement, appropriés des parcelles de ce territoire-là. Donc, ça passait parfois par la vente de terres à des colons, mais par les Haudenosaunee, mais très souvent aussi, les Haudenosaunee allaient louer des terres, puis les colons, par la suite, ou le gouvernement, allaient dire, non, en fait, c'était pas une location, vous l'avez vendue, vous l'avez donnée, ou enfin, c'est la propriété des colons. Et lentement, mais sûrement, en fait, il y a une appropriation des terres qui s'est faite, puis c'est le développement qu'on connaît aujourd'hui, où est-ce que c'est des terres qui sont majoritairement habitées par des colons, donc des descendants européens. Puis ce qui se passe, donc, c'est que la communauté de Six Nations, le territoire qui est en dehors de la réserve, qui est cet endroit où il y allait avoir le développement de Mackenzie Meadow, c'est un territoire que les gens disent « Ah, ça suffit, encore une fois, on vient développer dans notre cour, on vient développer sur notre territoire, et ça ne passera pas. » Donc, c'est un événement dans une longue série là, d'appropriation coloniale du territoire par les colons, par le gouvernement, puis par des entreprises privées. Puis en fait, en 2006, là, il n'y a vraiment pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un mouvement de défense et de réclamation territoriale qui est comparable à ce qui se passe en ce moment à 1492 Land Back Lane sur un territoire qui est, en fait, à la porte arrière, un lotissement qui est très, très proche de celui de Mackenzie Meadow. Donc, c'est pas la première fois là, qu'il y a qu'il y a un mouvement de défense très, très près de où se joue celui en ce moment.
Et c'est donc pas non plus la première réclamation qui est faite par les nations qui habitent le territoire là-bas. On s'imagine bien.
Non, c'est ça. Fait qu'en 2006, comme je le disais, là, il y a des promoteurs immobiliers qui ont essayé de faire un autre développement immobilier. Celui en ce moment, c'était 200 maisons qui étaient prévues d'être construites. Puis c'est la même chose, c'est une quantité similaire, en fait, qui se passait sur une terre que les gens aujourd'hui appellent Ganostaro, qui veut dire le lieu protégé. Puis à ce moment-là, en fait, la communauté s'était aussi mobilisée. C'est à l'initiative de deux femmes qui étaient allées voir le conseil traditionnel pour essayer d'empêcher le développement immobilier. Il y avait un campement. Puis en fait, la police avait été repoussée quand le gouvernement canadien, ou en tout cas la police provinciale de l'Ontario, avait essayé de reprendre le contrôle de la terre pour assurer le développement immobilier, la communauté avait repoussé. C'est des centaines de personnes qui sont descendues, qui sont sorties de la réserve, en fait, pour aller à Ganustaro pour repousser la police. Ça a fonctionné, là. Puis c'est ça, c'est comme je disais, cet endroit-là, c'est très, très proche de Linda Klein. C'est comme dans le mouvement en ce moment, en fait, t'as comme ces deux sites-là. T'as Ganustaro, qui est la porte arrière. Donc, c'est par là que les alliés arrivent quand ils viennent déposer de la nourriture ou faire des dons. C'est à cet endroit-là que parfois, il y a comme des soupers avec la communauté. Des fois, il y a des concerts. Donc, c'est le territoire qui a comme été récupéré. Il joue comme support de ce qui se passe au campement de 1492 Lamba Claim, qui est à 15 minutes à pied un de l'autre, en fait.
Donc, cette fois-là, comme ça a été annoncé cet été, le projet immobilier, qui était, comme si je comprends bien, un peu une extension de la banlieue de Toronto, en fait, sur les terres des Haudenosaunee, a été annulé. C'est le premier terrain... c'est un endroit protégé. Il sert de base arrière pour la lutte en cours. Mais est-ce qu'il y a des discussions parmi les défenseurs du territoire sur ce qui pourrait advenir de ce 1492 Land Back Lane maintenant que le projet a été abandonné?
Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il est très important, c'est que le projet il a été abandonné, mais ça ne vient pas avec une reconnaissance territoriale. Donc, ce qui est demandé, en fait, c'est qu'on reconnaisse la souveraineté territoriale de la communauté de Six Nations sur tout le territoire du tracé de Haldimand. La lutte, elle continue, elle s'arrête pas. C'est peut-être qu'en ce moment, il y a un peu moins de pression policière. On voit moins la police dans les environs. Là, ils harcèlent moins les gens sur le site de 1492 Lamba Claim. Mais il y a une intention là, de continuer à habiter à Lamba pour... maintenir justement l'occupation des territoires, de leur territoire. Et il y a des tiny houses qui ont été construites, il y a des maisons collectives qui servent de cuisine ou de salle de réunion. Cet été, il y a eu des jardins qui ont été entretenus. Puis l'intention, je pense, à certains égards, c'est parce que c'est leur terre, c'est en fait de la guérir, d'en prendre soin. Le début de la construction a en fait retiré toute la couche de sol, le top soil, excusez, je connais pas le terme en français, mais donc toute la terre qui est riche, là, qui a été retirée, je pense que c'est un pied de terre qui a été enlevé, puis en ce moment, la terre, c'est un peu comme un désert, là. Elle est toute craquelée, c'est de la boue, elle a pas de rétention d'eau, il y a comme un peu des plantes qui poussent, là, cet été, mais c'est très aride comme environnement, fait que il y a vraiment une envie de prendre soin de cet endroit-là. Puis d'un autre côté, si on parle de la question de reconnaissance territoriale, ben je pense que la manière dont j'en entends parler quand je suis là-bas, puis dans mes conversations avec les gens, c'est que cet endroit-là, il peut servir d'un point de départ à certains égards pour continuer à mener des luttes, que ça soit des luttes de reconnaissance territoriale le long du tracé. En ce moment, cet été, il y a eu des gens de Landback qui ont descendu la rivière Grand en canot en faisant un recensement écologique pour présenter, en fait, c'est quoi l'état de santé de la rivière Grand avec une envie de la guérir aussi, parce qu'elle est très, très, très polluée. Mmh. Fait que c'est ça, puis fait qu'il y a une envie d'utiliser Landback comme un camp de base, en fait, où les gens ils peuvent circuler, les alliés peuvent venir, d'autres personnes autochtones qui défendent d'autres territoires peuvent aussi passer. Donc, il y a une création de connexion, il y a un réseau de lutte. Puis je pense que l'idée, c'est vraiment de sentir, bien aussi avec cette victoire-là, là, l'annulation du projet immobilier qui est quand même une victoire. Il n'y a pas une reconnaissance territoriale, mais ça donne envie, ou en tout cas ça donne de la force au mouvement de décolonisation autochtone sur tous les territoires occupés par le Canada.
On comprend donc que c'est à la fois effectivement un territoire à défendre contre toute invasion impériale et un lieu à habiter dans une perspective de soins. Et peut-être éventuellement, effectivement, poursuivre la lutte. Et donc, rapidement, pour terminer, comment faut-il être disposé pour contribuer sur le terrain? Et comment on peut vous appuyer, en fait, dans la lutte, concrètement? Comment vous joindre? Comment vous suivre?
Oui, ben, tu sais, je dirais que, là, je vais essayer de faire ça bref, là. Je pense que ça pourrait être une très longue conversation. Comment est-ce qu'on fait pour appuyer ce genre de lutte-là? Mais déjà, je pense que, primordialement, il faut faire preuve d'humilité et d'écoute. Puis là, je parle à partir d'une position colonne, puis de la position d'une personne blanche. Pour moi, je pense que, et pour toute personne qui arrive et qui veut appuyer une lutte qui n'est pas la sienne, mais à laquelle on s'identifie et qu'on veut aider, c'est de ne pas arriver avec nos grands sabots puis d'imaginer savoir comment les gens devraient mener leur lutte. C'est l'important, c'est de savoir écouter c'est quoi les besoins des gens et arriver à se décentrer soi-même, puis à essayer justement d'arriver avec une forme de générosité, d'être capable d'offrir du temps, de l'énergie pour aider les gens, par exemple à maintenir des espaces ou à construire des infrastructures, à contribuer les ressources qu'on a en fait. Puis, je pense que un niveau très important aussi, il faut oser se mettre en jeu, en fait. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on est des Blancs, c'est pas parce qu'on est des colons qu'il faut être paralysé dans cette position-là. Il faut arriver à se placer dans une situation qui peut être inconfortable pour agir, en fait, à partir de notre situation. Puis, recevoir les critiques quand elles arrivent, c'est vraiment important, là, d'aller se mettre en jeu. Quitte à faire des erreurs des fois puis être capable de les réparer. Puis je pense qu'à la maison, pour les gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer sur des lieux de blocage, on continue à faire de l'éducation, s'éduquer soi-même, peut-être organiser des événements, puis juste s'assurer que la parole des gens en lutte elle soit entendue en fait.
Merci beaucoup, Max. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour l'échange. Désolé.
Mais il n'y a pas de problème.
Mais merci beaucoup pour ce partage. Puis on peut suivre, j'imagine, la lutte qui a lieu encore à Land Back Lane sur les réseaux sociaux, peut-être?
Exact. Puis aussi, il y a une levée de fonds. Il y a un GoFundMe, puis vous pouvez aller contribuer financièrement pour le Fonds de défense légale.
Merci, Max, pour ce partage et au plaisir de suivre cette lutte.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
On va prendre une courte pause et on vous revient.
À l'automne 2020, des membres de plusieurs communautés Anishinaabe du bassin versant de la rivière des Outaouais, situé dans le parc de la Vérendrye, ont bloqué l'accès de la chasse à l'orignal en réclamant un moratoire de 5 ans sur toute chasse de cette espèce fortement menacée. Pendant un mois, près de 10 campements ont été installés sur les routes menant aux pourvoiries. Cette année, tel qu'annoncé par le ministère de la Faune, il n'y aura pas de chasse à l'orignal dans le parc de la Vérendrye. Comme je vous disais, on est aujourd'hui avec Lucien Wabanonik pour prendre des nouvelles de cette situation.
Ah oui, je vous entends maintenant, oui.
Ah, bonjour.
Bienvenue à l'émission. D'abord, félicitations pour l'obtention du moratoire sur la chasse.
Merci.
Les nouvelles qu'on a vu n'était pas si clair. Est-ce que le gouvernement a accepté de l'instaurer pour 5 années, pour les 5 années qui étaient demandées?
Non, c'est 2 ans de moratoire. Puis pendant ce moratoire-là, il doit y avoir des études par rapport aux incidences, soit la diminution du cheptel de l'orignal dans la réserve faunique de la Vérendrye.
Donc, ça sera à reconsidérer si le moratoire va être poursuivi. Est-ce que c'est bien ça?
Ben, il y a déjà le moratoire déjà maintenant qui est en cours jusqu'à 2 ans. Donc, ça nous amène à l'année 2023. Là, si mes calculs sont bons, donc c'est 2 ans. Puis, durant ce temps-là, ben, comme je vous dis, il y a des études. Les communautés vont être interpellées à participer à l'étude. Donc, on a leur mot à dire. Là.
Puis, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous pour pallier au problème des populations des orignaux?
Écoutez, nous allons travailler en collaboration avec les gens du gouvernement, donc c'est pas nécessairement eux seulement qui vont préparer un plan, mais on va le faire en collaboration avec eux. Donc, Il y a des étapes à faire. On n'a pas nécessairement encore un plan de compléter à ce moment-ci. On est au début de nos discussions à cet effet-là.
Et est-ce que vous prévoyez assurer une présence sur vos territoires ancestraux pour que le moratoire soit respecté?
Non, quand même. On n'a pas exigé là, qu'il y ait une surveillance, mais à tout le moins, cet aspect-là il a déjà été discuté. Et pour le moment, le territoire, on n'a pas nécessairement de blocage d'accessibilité là, pour le moment, mais ça, c'est un engagement du Québec là, qui va faire respecter là, le moratoire.
Parce que si on se souvient bien, là, l'année passée, il y avait quand même des gens qui essayaient de contourner les blocages là, pour aller chasser l'orignal, même s'ils n'avaient pas la permission des gens qui vivent dans le parc de la Vérendrye. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire cette année?
Bien, en côté, écoutez, c'est difficile à dire pour nous. Là, mais nous, on a des gens qui sont encore là et qui sont en permanence dans le territoire. C'est eux qui vont nous rapporter s'il y a des gens qui essaient de rentrer par les chemins qui sont là, mais à tout le moins, pour le moment, on n'a pas nécessairement aucun rapport à cet effet-là qu'il y aurait des chasseurs sportifs là, qui essaieraient d'aller chasser dans la rivière Phonique-là. Pas dans le moment.
Et pour finir, peut-être, vous n'arrivez pas nécessairement aux mêmes conclusions que le ministère de la Faune sur les populations d'orignaux, sur les mesures à prendre non plus. Quel serait donc votre modèle idéal pour la préservation des habitats et des populations animales sur vos territoires?
C'est une bonne question. Ben, écoutez, ça varie d'une communauté à l'autre parce qu'il n'y a pas un territoire qui est pareil non plus. C'est des éléments qu'il faut analyser. Ben, nous, on connaît le territoire. On leur a déjà dit qu'on n'était pas d'accord avec leurs conclusions. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que ça a déclenché des réactions dans plusieurs de nos communautés. Mais le modèle qui serait à évaluer, c'est sûr qu'on veut ramener le cheptel à un pourcentage. Il y a quelques années, c'était 4 points quelque chose par rapport au kilomètre carré. Là. Aujourd'hui, on est rendu en deçà de la moitié de ça. Donc, on voudrait ramener le cheptel à un niveau supérieur en termes de pourcentage là, dans le territoire de la réserve.
Merci beaucoup, M. Wabananik, et merci également de veiller à la protection de ces territoires et des populations qui l'habitent. On rappelle que vous avez obtenu en fait le moratoire pour la protection contre la chasse à l'orignal dans le parc de la Vérendrye. Et on va suivre ça avec une grande attention en vous souhaitant une très belle fin de journée.
Bon, merci beaucoup à vous. Bonne journée.
On va prendre une courte pause et on revient après ça avec une membre de Fairy Creek à Vancouver.
Re-bienvenue à Nous la Terre. Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Aujourd'hui, on s'entretient avec des participants et participantes à différentes luttes de défense territoriale et de protection du vivant. Donc, avant à la pause, on avait avec nous une personne qui participe à la lutte de 1492 Len Back Lane à Six Nations et ensuite une personne qui a participé à la lutte pour la protection de la population orignale dans le parc de la Vérendrye qui a obtenu un moratoire cette année sur la chasse. Donc maintenant, on est avec Solène qui participe à la lutte de Fairy Creek. Fairy Creek qui est un des bassins versants qui se trouve près de l'île de Vancouver où la compagnie d'exploitation forestière Teal Jones menace d'abattre 59 000 hectares de forêt ancestrale. En ayant commencé par rallier près d'une vingtaine de campeurs pendant l'été 2020, le mouvement de résistance visant à protéger la forêt voyait arriver cet été des centaines de campeurs tous les jours. En avril 2021, Teal Jones a obtenu une injonction interdisant aux manifestants d'entraver ses activités et des milliers d'arrestations ont eu lieu depuis. L'État et sa police protègent les intérêts économiques de l'industrie forestière, là-bas comme ailleurs. Mais la résistance se poursuit et gagne en intensité. Donc, bonjour Solène, merci d'avoir accepté de parler de Fairy Creek avec nous.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être sur les ondes de votre radio.
Super. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous expliquer les origines du mouvement qui prend place à Fairy Creek en ce moment?
Oui, donc en nous, quoi c'est aussi, loup d'avant, on a... Il y a un jeune de Washington qui faisait un documentaire sur la coupe des forêts anciennes. Puis il a découvert que cette vallée-là, la vallée de Fairy Creek, le bassin versant, allait être coupée. Donc, il a décidé de faire un appel à l'action pour des gens. Puis, il y a 12 personnes qui se sont mobilisées pour empêcher la construction de la route dans le bassin versant qui allait arriver dans la prochaine semaine. Donc, ils se sont mobilisés, ils ont campé, puis tout le matin, ils ont stoppé l'industrie, puis ils ont dit « Hey, écoutez, c'est fini, vous n'allez pas construire cette route-là dans le bassin versant qui n'a jamais été touché par l'homme, donc un bassin versant encore vierge. » Donc, ils l'ont stoppé, puis ben, de là, ça a déboulé. Il y a eu un autre camp qui est allé de l'autre côté du bassin versant. Puis, il y a des gens qui sont mobilisés de ce côté-là. Et là, au final, on a décidé de devenir vraiment ce qu'on appelle la Rainforest Fine Squad. Donc, on est actif vraiment dans toute la ferme pour faire avec différents camps à différents endroits, histoire de bloquer toute la coupe des forêts anciennes, des forêts vierges qui se trouvent dans la zone où est-ce qu'on est, qui est une ferme d'arbres. La ferme d'arbres 46. Donc, on est un peu partout dans cette zone-là. Comme vous l'avez mentionné, en avril, il y a eu une injonction qui a été passée. Le 1er avril, donc on pensait que c'était un poisson d'avril, mais malheureusement, ça ne l'était pas. Puis, ça a donné le droit à Till Jones et à la police de nous retirer de la zone qu'on bloquait. Donc, ça a pris vraiment longtemps avant que les policiers arrivent. Ils sont arrivés à la mi-mai. Donc, après un mois et demi avec l'injonction, les policiers n'avaient toujours pas informé parce que notre location, l'endroit où est-ce qu'on fait la blockade, est très remote, très éloigné de la civilisation. Et si on est dans le bois, on est énormément de gens. Donc, ils ne savaient pas comment approcher la situation. Ça a donc pris un long moment avant qu'ils viennent. Et bien là, ils ont commencé. Puis depuis ce temps-là, ben, y a des arrestations qui se passent à chaque jour, sauf les dimanches. Donc, il y a des gens qui sont arrêtés tous les jours. On est rendu à plus de 1000 arrestations, ce qui fait, nous, la plus grande action de désobéissance civile au Canada et aussi la plus longue parce qu'on a cette blocade-là depuis plus qu'un an. Et donc, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de gens, puis c'est super toute la communauté qui s'est créée aux alentours.
Comment peut-on expliquer que le mouvement a pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui? Là, tu parlais du plus grand mouvement de désobéissance civile du Canada.
C'est dur à dire. Honnêtement, là, moi, j'étais là en mars, puis on était quoi, une trentaine de personnes. Je me serais jamais attendue à ce qu'on devienne, qu'on est devenu. Mais j'ai l'impression que la convergence des luttes, donc le fait que ce soit autant pour les arbres que pour la souveraineté autochtone, ont vraiment rallié beaucoup de gens en Colombie-Britannique. Puis en Colombie-Britannique, il y a eu d'autres mouvements de protection des forêts massives comme ça, que les Quatsand, la lutte pour Walden Park. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités ici, puis que les gens ont été très déçus. Parce que John Horgan, qui est le premier ministre de Colombie-Britannique, il avait promis qu'il allait protéger ces forêts anciennes-là, et il ne l'a pas fait. Donc les gens ont été déçus, et en plus, ils ont voulu contribuer. On est dans une ère où est-ce qu'on parle beaucoup de souveraineté autochtone, donc c'est un mouvement qui est à la fois pour l'environnement et pour la souveraineté autochtone, donc ça a vraiment rassemblé beaucoup de gens, j'ai l'impression. Puis, ouais, juste le fait que dans cette urgence sanitaire et climatique qu'on vit en ce moment, la priorité, ça ne devrait pas être de couper des forêts anciennes qui restent moins de 3%. Donc, les gens, ils sont un peu révoltés par ce fait-là. Donc, on se mobilise encore et encore. Puis, à chaque fois qu'on pense qu'il n'y a plus personne qui va venir, ben, il y a une quinzaine de personnes qui se pointent, qui se font entraîner, puis qui sont prêtes à se faire arrêter le lendemain. T'sais.
C'est vraiment inspirant, mais effectivement, c'est un affront là, que le gouvernement fait. Après tout ce qui s'est dit dans l'espace public il y a 2-3 ans, quand il y avait les grèves climatiques, heureusement qu'ils recommencent hein, aujourd'hui à se répandre partout au Canada. C'est fou de voir que des forêts aussi importantes pour les écosystèmes soient détruites. En juin, il y a trois Premières Nations de l'île de Vancouver qui ont signé une entente pour la protection de certaines parcelles de forêt. Est-ce que tu penses que cette annonce-là va influencer l'avenir de la lutte ou est-ce que les arrestations continuent comme si de rien n'était?
Donc, c'est ça. Les trois Premières Nations se sont rassemblées pour signer un moratorium. Donc, un moratorium de 2 ans sur la coupe des forêts anciennes. Donc, ça empêche la coupe de certaines forêts dans la zone où est-ce qu'on est actif, mais ça n'empêche pas la construction de routes. Donc, ça leur laisse 2 ans pour préparer la coupe des forêts, au final. Donc, le moratorium, oui, c'est génial parce que ça a permis de rassembler plein de différents peuples de différentes nations ensemble pour signer un accord, mais en même temps, c'est pas assez. Il y a des gens des Premières Nations d'autres horizons qui sont venus puis qui nous ont dit « Oh wow, c'est génial qu'on ait réussi à accomplir ça », mais en même temps, ce n'est pas assez. Parce que les arbres, en ce moment, ils se font quand même couper. Genre, au moment où je vous parle, il y a des bûcherons qui sont en train de couper certaines parcelles de la watershed parce qu'ils sont droppés par hélicoptère. Puis on en parlait, il y a John Hergen qui nous a demandé de rentrer à la maison sous prétexte qu'il n'y a aucun arbre qui se faisait couper. Mais non, il y a des arbres qui sont coupés, 6 bûcherons par jour sont amenés par hélicoptère pour venir couper la watershed, le bassin versant. Donc, ouais, je pense que c'est un grand accomplissement que les nations soient assises ensemble pour décider de signer cet accord-là. Mais en même temps, il nous faut plus. Il faut empêcher la coupe de toutes les forêts anciennes en territoire Colombie-Britannien.
Donc, ouais. Donc, c'est vraiment un affront, effectivement, de l'État, de la police et de l'industrie. Des centaines de protecteurs de la forêt ont été arrêtés depuis le début du mouvement. Est-ce que ça fait partie de la stratégie de lutte adoptée contre le projet? Et sinon, comment vous faites face à la répression sur place?
Oui, bien, tu sais, on s'entend qu'on a essayé les manifestations, on a essayé les pétitions, on a tout essayé. Mais là, on est rendu au moment où est-ce qu'il faut mettre nos corps en avant de l'industrie pour les empêcher de couper les arbres. Si on est rendu à faire la désobéissance civile, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre qui marche. Fait que, ouais, on a eu plus de 1000 arrestations qui se sont passées sur la zone, puis des arrestations officielles. Mais si on rajoute les catch-and-release, ce qu'on appelle, donc les gens qui sont arrêtés, on se fait littéralement kidnapper par la police qui appelle. Donc, on se fait pogner par eux, ils nous prennent, puis ils nous amènent ailleurs, puis ils nous dropent là. Juste histoire de nous retirer de la montagne. Puis on a le droit de revenir. Donc, les arrestations sont à ce point-là nécessaires, puis c'est le seul moyen qu'on va réussir à sauver les arbres. On se base sur le principe que s'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés, comme le principe de la fenêtre d'Overton, qui est la fenêtre de l'ensemble des possibilités. Dans cette fenêtre-là, il y a tout ce que le public accepte. Par exemple, le droit de vote pour les femmes, avant, c'était pas quelque chose qui était accepté. Mais les suffragettes ont fait des combats, se sont mobilisées, puis il y a d'autres femmes un peu partout dans le monde et d'alliés qui se sont mobilisées pour autoriser le droit de vote aux femmes. Donc, par chacune de leurs actions des obéissances civiles, ils ont ouvert cette fenêtre d'Overton pour, à un point, inclure le droit de vote pour les femmes. C'est ça qu'on essaie de faire en ce moment à la blockade. On essaie de poser des questionnements dans la tête des gens, se demander pourquoi ils sont prêts à perdre leur liberté et leurs droits pour protéger ces forêts-là. Puis en se questionnant comme ça, ils ouvrent la fenêtre d'Overton. Et à un moment donné, on va être capable de protéger les forêts. Et assez de gens commencent à questionner les comportements du gouvernement et de la police et des industries.
C'est super intéressant. Merci beaucoup pour tes réponses. Puis peut-être pour terminer, on aimerait ça te demander de comment est-ce que c'est possible de joindre la lutte à Fairy Creek? Comment est-ce qu'on peut contribuer à distance? Est-ce que le campement est ouvert pour quiconque qui voudrait aller prendre place là-bas?
Oui, donc notre camp est ouvert à tous. Que vous soyez un militant endurci ou quelqu'un qui est la première fois, on a un centre de training pour les gens qui viennent, qui sont traînés, qui sont... Comme ça, ils sont prêts pour aller sur la montagne. Et une fois qu'ils sont là, ben, c'est la désobéissance civile ou c'est juste cuisiner. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est sûr que si vous êtes au Québec, ben, c'est dur de savoir comment s'impliquer, excepté prendre un vol d'avion vers la Colombie-Britannique, qui coûte seulement 69 $ en passant. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder en ligne. Mais si vous êtes au Québec, c'est le mouvement, présentement, c'est tellement plus que juste sauver la watershed de Fairy Creek. Fait que, ce qui peut arriver, là, c'est faire des blockades au Québec. C'est penser à l'aide basse, plus essayer d'avoir sur les médias mainstream de parler du qu'est-ce qui se passe à Fairy Creek. Partagez dans vos réseaux, partagez autour de vous, puis commencez à vous demander, est-ce qu'il y a une forêt qu'on veut préserver à côté de nous? Puis si oui, bien, mobilisez-vous, faites appel à la Rainforest 5 Squad, on est prêt à aider les autres blockades. Fait que, ouais, juste, c'est à notre tour de prendre notre pouvoir. Les gouvernements ne vont pas automatiquement juste sauver les forêts. Les industries ne vont pas automatiquement arrêter de les couper. Fait que c'est au tour des citoyens de mettre en place des actions. Fait que faites juste trouver une action qui vous intéresse, qui vous passionne, puis impliquez-vous. Puis si vous voulez vous impliquer pour la haute en cours de cette année, bien, venez nous rejoindre, puis ça va être malade. Il y a plein de Québécois ici.
Merci beaucoup, Solène, pour ce partage très inspirant. Effectivement, mettons nos corps à l'épreuve et protégeons le vivant. Merci de le faire, d'ailleurs. Merci pour cet échange.
Merci.
Pas très difficile de trouver des boisés ou des espaces de forêt qui sont menacés au Québec. Je pense que tout le monde peut penser à des boisés pas loin de chez soi. Il y a deux semaines, on en avait des gens qui nous en parlaient, d'ailleurs, par rapport à Montréal. Mais récemment aussi, j'ai entendu dire que une forêt ancestrale dans Lotbinière qui est supposément protégée, il y avait du logging qui se faisait dans les semaines passées, dans les semaines futures, probablement qu'il y en aura encore. Donc, on invite les gens à aller dans le bois puis à voir qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, on ne peut pas savoir. Les informations ne sont pas là pour savoir quand les forêts ancestrales se font détruire.
Exactement. On a juste besoin de camper puis d'être témoin de la beauté de ces forêts-là. Mmh. Puis, ben, c'est comme ça qu'on va gagner la lutte, t'sais. C'est plus de gens qui sont témoins de la force des forêts.
Merci, Solène. Merci beaucoup. Puis, en tout temps, une très belle fin de journée.
Merci à vous. Passez une belle journée. Merci de m'avoir invité.
Au revoir, merci beaucoup.
On va continuer cette réflexion sur les moyens de pression, justement au Québec, en studio ici avec Chloé Proulx de la Sève. Donc, bonjour Chloé.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Merci à toi d'être avec nous. Le 24 septembre prochain aura lieu un peu partout une manifestation mondiale pour le climat. Et donc, tu es ici avec nous pour en parler. Quel est l'objectif de cette manif et quelles sont les informations à savoir pour y prendre part?
Donc, je pense que l'objectif principal de cette manif, bien, c'est de relancer le mouvement environnemental qui a un peu été éteint par la COVID, par nos gouvernements qui ont mis des priorités ailleurs, bien sûr. C'était comme une raison facile d'oublier qu'il y avait des manifestations environnementales dans les années précédentes. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer que le mouvement est encore existant, que la justice sociale et climatique est de plus en plus urgente. Puis, si les gens ils veulent se joindre à nous, c'est vraiment le 24 septembre à 13h à Place Diouville pour celle de Québec. Puis, s'ils veulent savoir les autres, il y a sur le Facebook de la Sève les informations pour une dizaine là, de manifestations.
Génial. Et donc, merci d'abord pour ce relan des activités du mouvement écologique. Et au-delà de ces événements donc, qui visent à rallier peut-être ponctuellement une population élargie, comment la Sève prévoit-elle donner une consistance au mouvement écologiste? Donc, on a entendu là, tout au long de l'émission des luttes territoriales qui se faisaient notamment par des blocages. Est-ce que ça fait partie des réflexions? Donc, comment consolider ce mouvement-là?
Bien, je pense que justement, pour consolider ce mouvement-là, ce qu'on essaie de faire, premièrement, c'est vraiment se doter d'une meilleure structure interne qu'on a présentement pour que notre mouvement soit accessible à tous et toutes, que tout le monde puisse se joindre à nous, puis qu'on puisse justement s'impliquer dans plusieurs choses en même temps. Donc, plus on va être mieux organisé, plus ça va être facile que ce soit pas seulement une manifestation, puis après, ce soit difficile de s'impliquer. Donc, oui, les blocages, c'est pas nécessairement quelque chose qui est tout de suite prévu par la Sève, mais c'est quelque chose qui peut être considéré. Puis c'est surtout de multiplier les actions justement pour démontrer qu'il y a un autre mode de vie possible. Donc, de pas juste aller contre des projets. Oui, on va le faire aussi, on va s'opposer tant qu'il y a des projets comme le Troisième Lien, comme Laurentia, comme les destructions de forêts dont on parlait avant à l'émission, mais aussi de montrer le positif de l'histoire. Donc, de montrer qu'il y a quand même des solutions, qu'il y a quand même des réalités durables qui existent, puis de les apprendre. Donc, d'éduquer la société sur celle-là, puis de montrer que c'est celle-là qu'on veut que soit mise en place.
Tout à fait. Effectivement, en fait, ce que vous créez avec une manifestation comme ça, c'est peut-être un moment d'intensité, un moment de rencontre où, justement, on peut donner un élan à ce mouvement-là, peut-être converger vers des territoires, vers des luttes existantes qui sont présentes sur les différents territoires. Donc, tu dis qu'il va y avoir des marches un peu partout. C'est l'occasion de rallier, justement, ces différentes luttes et peut-être d'avoir, justement, des réflexions à savoir comment donner une substance à ces luttes-là. Et est-ce que, parce que là on parle du troisième lien, on parle de ces projets-là ici à Québec, par exemple la zone d'innovation Littoral Est qui est un immense projet, est-ce que justement d'envisager des occupations ou une convergence de ces forces-là sur des territoires pourrait faire partie des stratégies?
Mais c'est sûr que si les projets continuent comme sais, présentement, on va continuer à justement occuper les territoires comme on le peut. Déjà, pour le troisième lien, bien, il y a l'îlot Fleury qui a été occupé cet été presque à chaque semaine. Là, il y a eu de l'occupation du territoire là-bas pour montrer que c'est un lieu que les gens utilisent. C'était rendu presque un parc. Là, il y a des gens qui ont planté des choses là-bas. Donc oui, c'est possible. C'est une possibilité de vraiment se mobiliser. Donc ça sera pas seulement une manifestation. En fait, on aime dire que la manifestation, c'est le départ du mouvement. Donc c'est vraiment pas une finalité. Puis après la manifestation, tout est terminé. C'est pour lancer l'automne, puis après, on va se mobiliser comme il faut pour arrêter là, les projets qui n'ont aucun bon sens présentement.
Tout à fait, et on pense effectivement qu'on va devoir donner un autre, changer le ton, en fait, du mouvement écologiste, lui donner une autre forme, parce qu'on voit effectivement l'arrogance des gouvernements en place. On peut penser à Legault, mais également aux libéraux qui viennent d'être élus. Donc, on va devoir faire sans ces groupes-là, s'organiser entre nous, se rallier. Merci, Chloé, pour cet échange. Et on vous retrouve le 24 septembre prochain à 13h à la place Duville, c'est bien ça?
Exactement, on va vous attendre à 13h à place Duville le 24 septembre.
Et comment on suit les activités de la Sève?
Bien, il y a sur Facebook et sur Instagram, là, il y a un compte de la Sève. Donc, il y a le compte national sur lequel vous allez vraiment retrouver les informations de toutes les villes dans lesquelles il y a des manifestations, justement, qui ont lieu. Puis, si vous voulez voir seulement la ville de Québec, vous pouvez toujours regarder là, La Planète s'invite à l'université, sur lequel on va retrouver les informations seulement pour Québec.
Merci beaucoup. Et au plaisir de donner, justement, de joindre nos forces et peut-être, effectivement, de bloquer certains projets qui apparaissent comme des menaces aujourd'hui.
Oui, on l'espère. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est ce qui conclut déjà notre heure ensemble à nous la Terre. Merci à nos invités. Merci à Max qui est venu nous parler de Len Backlane. Merci à Lucien Wabanonik qui est venu nous parler du moratoire sur la chasse à l'orignal dans le parc de la Vérendrye. Merci à Solène qui nous a parlé depuis Ferry Creek en Colombie-Britannique. Et merci finalement à Chloé qui est venue parler de la manifestation du 24 septembre, des activités de la Sève qui reprennent de plus belle. Effectivement, on souhaite un automne chaud, comme on dit. On souhaite un hiver qui ne se laisse pas avoir par le froid et qui continue d'être aussi actif. Et on se souhaite un printemps qui durera longtemps. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Michael Gosselin pour la mise en onde. L'émission est en rediffusion demain, vendredi à 11h. L'émission est en rediffusion vendredi à 11h et non pas demain sur les ondes de CKIA. Il est possible d'écouter les épisodes en balado via le site Contrepoint Média ou sur anchor.fm. Cherchez À nous la Terre et vous nous trouverez. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine. New York.